Attends.
Belge de surcroît.
Je m'assois.
Thierry Pierre Clément est poète avant tout. Il est aussi essayiste et romancier. Entre autres publications, Approche de l'aube, poème préfacé par Jean-Pierre Lemaire ici présent, prix Aliénor en 2018, et Poésie fenêtre ouverte, cet essai dont il va nous parler maintenant. Il a collaboré à de nombreuses revues, poèmes, articles, notes de lecture et figure dans diverses anthologies. Certains de ses poèmes ont été traduits en italien, en grec, en turc et même en persan. Nourri par un lien fort avec la nature, son travail littéraire, plusieurs fois primé, traduit une attention profonde à la dimension spirituelle de la vie. Je lui laisse la parole.
Merci Bernard, merci de m'accueillir dans cette honorable assemblée. Est-ce que ma voix porte suffisamment ou je dois prendre le micro? Ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, comme l'a dit Bernard Fournier, je vais vous parler d'un essai sur la poésie qui s'appelle Poésie fenêtre ouverte. J'ai quelques exemplaires ici si vous le souhaitez. Pour introduire cette présentation, je vais simplement lire au départ la quatrième de couverture. Poésie fenêtre ouverte rassemble 7 textes, la plupart précédemment parus dans diverses revues au fil du temps. Le premier date de 1991 et le dernier de 2023. Le livre s'ouvre sur un manifeste pour un monde nouveau, écrit en 1992 lors du 5e centenaire de la découverte des Amériques, découverte entre guillemets, et co-signé par plusieurs poètes issus des deux rives de l'Atlantique, dont des poètes amérindiens d'ailleurs. Il se poursuit, ce livre, par une navigation en compagnie de 5 auteurs successifs, Kenneth White, Jean Dumortier, un poète belge tombé dans l'oubli et que j'ai voulu sortir de l'oubli, modestement, Blaise Cendrars, Jean-Pierre Lemaire, un poète vivant,
et présent.
Non seulement vivant, mais en plus il est là, il est présent parmi nous, et Jean-Marc Sourdillon. Et le livre s'achève sur un chapitre intitulé « Hors les murs, par-delà les mots », où je tente de répondre à la question « Pourquoi la poésie ?» Comment la poésie m'habite et comment j'habite moi-même la poésie. Alors, loin d'être disparates, les chapitres de cet essai, pourtant écrits à divers moments et dans des circonstances variées, sont reliés par un fil conducteur, un regard spirituel sur le monde qui transcende les expressions poétiques singulières de chacun des auteurs étudiés. Un tel regard me semble aujourd'hui urgent et nécessaire, et la poésie est à même de le susciter. En effet, et là je cite Myriam Wattier-Delmotte qui a écrit la préface du livre, elle dit « La poésie offre un démenti calme, clair et ferme à ce qui verrouille le langage humain dans l'étroitesse du matérialisme, le mensonge du mercantilisme ou l'impasse du nihilisme. Il est plus que jamais indispensable d'ouvrir les fenêtres et de respirer large. » Alors, le livre, comme je vous le disais, s'ouvre sur un manifeste pour un monde nouveau, écrit au moment de cet anniversaire. Je vous lis quelques extraits. Donc, je vais en fait, j'ai relativement peu de temps, donc je vais lire des petits extraits de à peu près de chaque chapitre. 1992. Ça va toujours pour la voix, oui. C'est bien. C'est bien. 1992. 5 siècles se sont écoulés depuis la découverte de Christophe Colomb. Un anniversaire, certes, mais que fêter ? L'apport et l'extension de la civilisation européenne, l'accroissement prodigieux de notre richesse, le triomphe de nos valeurs. Quelles valeurs ? L'apport de la civilisation européenne s'est traduit par des épidémies et des massacres. Son extension repose rien qu'en Amérique du Nord sur la disparition de 97% de ses premiers habitants. Erreur du passé, elle se perpétue de nos jours en Amazonie. Je rappelle que ce texte a été écrit il y a plus de 30 ans, mais malheureusement, je crois que c'est toujours actuel. L'accroissement de notre richesse, Non content d'affamer les Amérindiens, ceux qui restaient encore, nous avons épuisé leurs terres et détruit les équilibres naturels. Nous continuons d'ailleurs à un rythme toujours croissant partout dans le monde. Et nous continuons toujours. Il suffit de savoir que chaque année, nous déboisons l'équivalent de la superficie de l'Autriche. Donc, c'était il y a 30 ans, donc je ne sais pas si le rapport s'est encore aggravé. Exploitation des ressources naturelles, exploitation des ressources humaines aussi. Que nous sachions encore que 16% de la population du monde contrôle plus de 65% de ses ressources. En 1992, encore une fois. Non, l'esclavagisme n'a pas disparu. À leur tour, même les habitants privilégiés, mais aveuglés, de l'Occident post-industriel ne sont pas épargnés. Sous couvert de liberté de parole et de l'abondance des biens de consommation, ils sont l'objet d'une exploitation non moins épouvantable. Le rythme, les conditions et les motivations de leur existence quotidienne, diamétralement opposées à l'harmonie naturelle, les poussent vers une aliénation insidieuse, croissante et profonde. Mais l'argent et la télévision et les smartphones assouplissent les consciences. Je t'ai montré mon petit téléphone.
Oui, mais c'est bien.
On meurt à petit feu, confortablement. Notre richesse repose donc sur l'esclavage de la terre, du tiers-monde et de nos consciences. Quelle valeur! Bon, alors, je suis un petit texte. 1492, nous refusons de participer à la fête, nous refusons de nous joindre au festin. Nous refusons de souffler les bougies de ce gâteau. Je ne vais pas tout lire.
Un peu plus de temps, hein.
J'ai un peu, oui, ok. Nous, poètes et filles et fils de la terre, affirmons la nécessité et même l'urgence d'une telle révolution mentale et comportementale. Donc, dans le paragraphe précédent, je disais, nous travaillerons dès maintenant à rechercher un nouveau langage, et par langage, j'entends des nouveaux modes de pensée et de comportement, allant dans la direction de ce monde nouveau. Trouver un monde nouveau à chaque instant, quoi. La nécessité et même l'urgence de promouvoir les valeurs de l'être plutôt que celles de l'avoir. La nécessité et même l'urgence de l'avènement d'un monde nouveau, fondé sur les forces harmonieuses de la vie et non plus les forces destructrices de la mort, à moins de laisser sombrer notre bateau. Vous voyez que c'est un texte, c'est un manifeste bien entendu, donc il y a ce côté engagé, hein, qui est très clair, réaliste, mais avec une petite fenêtre ouverte quand même. Et ce manifeste a été co-signé par une dizaine de poètes, comme j'ai dit, des deux côtés de l'Atlantique. Alors, le chapitre suivant s'intitule « Un nouveau langage pour un monde nouveau ». C'est un chapitre un peu plus philosophique, je dirais, où j'essaie de décrire ma façon d'aller vers ce nouveau langage, donc de nouveaux comportements de pensée aussi. Je vais passer ce chapitre parce que j'ai pas trop le temps. Il y a aussi un chapitre qui parle un petit peu de mon propre parcours. Et ensuite, j'arrive à Kenneth White. Et Kenneth White est un auteur qui m'a beaucoup marqué. C'était un ami. Nous étions assez proches humainement, mais aussi au niveau de la pensée et au niveau littéraire. Donc, enfin, littéraire, c'est-à-dire, lui, il a évidemment écrit beaucoup plus que moi et bien mieux que moi. Mais, je veux dire, dans la démarche, nous avions une certaine proximité. Kenneth White ne cesse de faire appel à des poètes, des écrivains, des penseurs, de toutes les époques et de tous les continents, de sorte que finit par apparaître aux yeux du lecteur un immense réseau de relations, la trame infinie d'un énorme effort collectif, le chant multiple et unifié de voix innombrables. La voilà, la véritable histoire humaine. Kenneth White fonde une poétique du monde, c'est-à-dire que la nécessité d'une reprise de contact avec le monde les pratiques et la pensée qui en découlent trouvent aujourd'hui, à travers le travail de White, une articulation, une forme, un langage. Nous touchons là aux structures mentales, au niveau de conscience. Je fais une petite parenthèse pour dire que Kenneth White a imaginé le concept de géopoétique, donc géo, la terre, et poétique, façon de penser et de se comporter. C'est ça qu'il entend par le mot poétique. Une attitude devant le monde. Et il a fondé l'Institut international de géopoétique en 1989. À quoi bon les promenades dans la campagne ou les comportements environnementalistes si nous sommes incapables, au plus profond de nous, d'abroger cette frontière entre l'esprit et le corps, entre la terre et nous, qui constitue le lait principal de notre civilisation occidentale. Vivre en ville, par exemple, n'empêche pas certains d'être éveillés chaque année, par un moment précis d'une nuit d'automne, par le vol des oies sauvages au-dessus des toits, en route pour leur migration. Il est possible de veiller sur cet instinct, cette amitié avec les oiseaux, ou de le retrouver à nouveau, en changeant notre regard sur le monde. Partir nous-mêmes en migration vers un espace autre. Alors ici, je cite Kenneth White. Et puis, le plus souvent possible, l'œil et l'esprit ouverts, emprunter n'importe quel sentier dans le bois, suivre n'importe quel ruisseau jusqu'à la mer. Et je cite un extrait d'un poème de Kenneth White. Dans cette nuit entre l'ancien monde et le nouveau, pénétrer plus loin, toujours plus loin, dans un monde ni nouveau ni ancien, un monde ni ancien ni nouveau, suivre jusqu'au bout le chemin des oiseaux. L'aube point dans le cri de l'oie sauvage. Après Kenneth White, je me suis attardé quelque peu à Jean Dumortier, un poète que probablement vous ne connaissez pas en France, parce que peu de monde le connaissent même en Belgique. C'est un poète belge, mais qui est décédé maintenant, et qui a publié dans diverses petites maisons d'édition. Ses œuvres sont pratiquement toutes introuvables aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, il est un peu tombé dans l'oubli, quoi. Et comme il était très proche de moi, que c'était un ami et que je l'aimais bien et que j'aime aussi ce qu'il écrit, je me suis dit, ça va pas, hein. il faut écrire sur lui, il faut écrire quelque chose, pardon.
C'est peut-être la preuve de la qualité que ça soit.
Ah, peut-être, oui, c'est possible.
Je connaissais de nom.
Tu le connaissais?
De nom, simplement, ouais. De nom.
Ok, ah, super. Alors, Jean Dumortier était aussi un poète engagé. Dans sa vie professionnelle, il était syndicaliste. Et donc l'engagement humain pour lui avait vraiment du sens, et également dans son travail de poète. Et il a participé à un groupe qui s'appelle le groupe des années 80, qui pose un regard sur, je dirais, le rôle du poète dans la société. Nous pensons que notre fonction est de transmettre aux autres l'observation que nous faisons du monde. Nous pensons qu'après avoir vécu ou appris, selon les âges, la guerre de 1940-45, Hiroshima, Nagasaki, qu'en vivant encore les fascismes larvés ou affirmés, c'était dans les années 80, mais les fascismes larvés ou affirmés, le dépouillement du tiers-monde, la menace nucléaire, la crise et la misère, qu'en assistant tous les jours aux mensonges politiques,
tiens,
et aux ruses des courtisans du régime, il nous appartient d'accuser, comme citoyens engagés dans un processus historique sans doute, mais encore comme auteurs conscients d'une responsabilité morale. Que les valeurs bourgeoises s'effondrent n'est pas pour nous chagriner, mais qu'elles périssent dans l'avachissement général, sans l'amorce d'une lutte constructive porteuse d'autres valeurs, alors naît l'inquiétude. Il semble qu'à l'effritement de structures caduques réponde un délabrement humain et que le nouveau ne s'annonce pas pour remplacer l'ancien. Nous sommes en péril par la menace atomique, évidemment, par le chômage, la paupérisation, évidemment, mais encore, le péril vise notre être profond. L'appauvrissement de la parole, de l'art, n'est pas seulement un coup porté à notre connaissance, à notre culture, à notre civilisation. C'est un coup porté à notre cœur, à notre spécificité humaine. C'est une réduction de notre moi dans ce qu'il a de singulier et d'universel. Je voudrais pas vous laisser sur une note trop pessimiste ou trop négative, parce que jusqu'à présent c'est un petit peu c'est le ton un petit peu polémique et sans ça. Mais il faut savoir, Jean Dumortier, toute sa poésie est imprégnée d'émerveillement, en fait, d'esprit d'enfance. Vous avez entendu ici le Jean Dumortier engagé, mais l'esprit d'enfance, l'émerveillement est très très important pour lui. Goûter aussi les multiples dons de la vie, hein, ça va de pair. Hymne à la féminité, il adorait les femmes, à commencer par la sienne, et d'ailleurs, il se tenait à la sienne. Mais il a écrit des poèmes extraordinaires sur la femme, la solidarité humaine, on en a entendu maintenant un exemple, le rôle et l'engagement du poète, on vient de l'entendre. Donc en ce sens, Jean Dumortier est aussi à la recherche d'un monde et d'un langage nouveau. Vivre en poésie, écrit Colette Nismazur, qui est une poétesse belge également, mais que vous connaissez probablement mieux, et ces mots me paraissent taillés sur mesure pour Jean Dumortier, ce serait contempler, donc je cite Colette Nismazur, ce serait contempler, interroger tout visage, chaque paysage, n'importe quel objet, au lieu d'habiter le monde en étranger, tenter de l'apprivoiser, de reconnaître la connivence qui nous unit à l'univers, de l'étonnement à l'émerveillement, mais aussi à la rébellion contre tout ce qui réduit, obscurcit la splendeur de l'être. Une présence, une attention qui, loin de renier le réel ou de s'y soustraire, souhaite le recevoir dans sa mystérieuse épaisseur, le célébrer aussi.
C'était un poème de Jean Dumortier.
Réciter un poème de
lire.
Jean Dumortier. Lire.
Non, moi,
lire. Je connais pas les poèmes par cœur. Je vais vous lire un poème de Jean. Oui, ça c'est une très très bonne idée. Attends, je vais trouver ça. Oh, j'en ai repris plusieurs ici. Voilà. Un poème que j'aime beaucoup. Je vous parlais de son amour de la femme. Voilà, il a écrit un très beau poème. Je vais vous le lire. Jean Dumortier. Elle traverse nue ton poème. Le bonheur navigue dans ta maison. Ses bras sont les paupières de tes nuits. Tu la sais, gorge, au blé de tes origines. Elle traverse nue ton poème. La lune argente ton lignage noir. Ses jambes sont les ifs de tes calcaires. Tu la sais, coupe au seuil de tes neiges. Elle traverse nue ton poème. Les embruns ombrent ton désir. Ses lèvres sont les joues de tes couchants. Tu la sais, lobe à la rétine de tes matins. Elle danse nue sur ton poème. La cadence déploie ses ramiers. Ses bourgeons s'éclosent dans tes vignes. Tu la sais une. Tu mûris à son front. Après Jean Dumortier, je me suis intéressé à Blaise Sandra, aussi un poète qui m'a énormément marqué. Je me suis intéressé plus particulièrement à son poème très très célèbre, évidemment, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Selon moi, Sandra part aussi à la recherche d'un monde nouveau, d'un espace nouveau. C'est un peu le fil qui relie tout mon livre. Hein. Et j'ai essayé de lire ce poème avec un nouveau regard, qui est peut-être un petit peu à contre-courant du regard habituel qu'on pose sur ce poème. Et selon moi, enfin, mon hypothèse, c'est que Blaise Sandra, avec ce poème, tente d'exprimer l'espoir, l'espérance d'un retour vers l'origine, vers son origine profonde. C'est un poème qui, à première vue, est très, très nostalgique. Mais je pense que cette nostalgie n'exprime pas quelque chose de perdu, cette nostalgie exprime plutôt l'espérance de quelque chose à venir. Je trouve que ce poème est très très positif. Du monde entier au cœur du monde. Vous savez que les poèmes de Blaise Cendrars ont été rassemblés dans la collection Poésie Gallimard sous ce titre, hein, Du monde entier au cœur du monde. Telle pourrait être, en effet, la devise de l'écrivain Blaise Cendrars. Sa démarche ne visant à rien d'autre qu'à se plonger corps et âme dans le flux vertigineux de la vie, à embrasser le monde dans toutes ses fièvres et tous ses élans, des plus obscurs aux plus lumineux, charriant dans un même fleuve impétueux l'or le plus pur et la boue la plus noire, mais dans le seul désir de tirer de ce réel multiforme son élixir, son sens, son origine, ce qui proprement se trouve au cœur du monde et de notre existence à tous, et demeure évidemment à jamais inatteignable ici-bas. Écriture du désir, de l'élan, du jaillissement sans fin vers le dehors pour tenter de rejoindre le dedans. Oui. Je vais citer quelques vers, les premiers vers du poème. Vous les connaissez par cœur, mais je vous les redis, au cas où vous auriez oublié. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le monde ancien est derrière nous, semble dire Cendrars. Un monde nouveau est à inventer. Et pourtant, la poésie, le langage, l'art en général, tout ce que nous cherchons à exprimer, jamais ne pourra aller jusqu'au bout. Nous sommes jetés corps et âme dans un élan qui constitue sans doute notre justification même d'être humain et qui pourtant n'atteindra jamais le but qu'il poursuit. L'infini, par définition, ne peut être atteint, encore moins possédé. Plus loin dans ce poème, Blaise Cendrars cite Sévère, il est parlé de pigeons qui s'envolent. Je ne vais pas vous lire tout le poème parce qu'il est beaucoup trop long, mais il y a Sévère-ci. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour du tout dernier voyage et de la mer. Cendrars insiste à 3 reprises sur le mot « dernier ». Pourtant, il précise qu'il s'agit de réminiscences, du souvenir de la mer. Que serait-ce d'autre que la mémoire de l'origine, la mémoire de l'infini qui est notre substance? Si c'est bien là ce que le poète a voulu exprimer, même en se laissant traverser par son inconscient, nous pourrions lire ce voyage en transsibérien comme celui du désir d'un retour à notre origine profonde. Certains ont pu lire dans ce dernier voyage à destination de la mer une évocation de la mort et une opposition avec l'élan vital, charnel et gourmand des premiers vers du poème et caractéristiques de Cendrars, évidemment. Certes, la mort est bien présente tout au long de la prose du transsibérien, de même que la guerre. Et Cendrars n'élude rien de ses visions de cadavres et de carnage, mais elle fait partie intégrante de ce que j'appelle le parcours terrestre. À mes yeux, la mer à laquelle songe ici le poète ne représente pas la mort, mais une vie plus vaste. Il s'agit de traverser le réel, y compris la mort, pour aller plus loin. Voilà mon hypothèse de lecture. Très brièvement. Alors, je vais oser vous parler un petit peu de Jean-Pierre Lemaire, ici devant moi, qui prend son petit calepin et il va noter si ce que je dis est juste ou pas. Pour Jean-Pierre Lemaire, selon moi, il y a aussi une notion importante, je pense, c'est de traverser les frontières, la traversée des frontières, pour un voyage vers l'intérieur de soi et percevoir l'au-delà du visible. C'est ma lecture de l'œuvre de Jean-Pierre Lemaire. Par une ouverture du regard et par une attention quotidienne aux choses de la vie. Le thème de la frontière se retrouve dans maints poèmes de Jean-Pierre Lemaire. Ainsi celui-ci, dès son tout premier recueil, Les marges du jour, publié en 1981. Derrière la brume fine de la page, l'envers muet du monde, le fantôme des vies passées sous silence, tu ne peux traverser l'infime frontière, tu écris seulement pour en suivre l'ombre et les révéler de ce côté-ci comme des personnages. Il me semble également qu'il s'agit pour Jean-Pierre Lemaire, à travers le thème de la frontière, de donner à percevoir, ou du moins à pressentir, un espace de l'être situé au-delà de ce qui est immédiatement visible. Je le cite, « Voir cette vie, non plus seulement sous le ciel, mais comme à travers lui. » À nous de prêter attention à ce monde relié par le fil intérieur. Un des recueils de Jean-Pierre Lemaire s'intitule « L'intérieur du monde ». À nous d'ouvrir les yeux de l'âme pour laisser apparaître l'invisible infini, toujours présent, mais qui n'attend que notre ouverture de cœur, comme dans ce très beau poème « La mer à menton ». La mer suspendue au-dessus des toits et de la table où tu écris, n'envahira pas les rues, les maisons. Elle attend là-bas, derrière les palmiers et les drapeaux multicolores, immense, retenue, que nous levions les yeux, que demain ce chemin s'ouvre dans nos cœurs pour nous alléger comme des bateaux. Pour chacun des chapitres, il faudrait pouvoir dire beaucoup plus, mais j'essaye de vous donner le goût. Après Jean-Pierre Lemaire, et c'est le dernier chapitre consacré à d'autres poètes, je me suis attaché à Jean-Marc Sourdillon, un autre poète vivant, il y en a, des poètes vivants, et il a failli y venir aussi d'ailleurs, mais il n'a pas pu, c'est l'anniversaire de sa fille aujourd'hui. Et j'aime beaucoup Jean-Marc Sourdillon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Jean-Marc Sourdillon, une poésie de l'élan, de la naissance, toujours à venir, à recommencer. Pour lui, pour Jean-Marc Sourdillon, la poésie, c'est des passerelles, vers un espace plus large. On retrouve toujours le même thème, hein, le voyage, la passerelle, franchir la frontière. Je le cite. C'est extrait de son livre « L'unique réponse ». Qu'est-ce qu'un vers, une passerelle ? L'une de ces légères passerelles que le pas efface à mesure qu'il les révèle. Et la poésie, une suite de lancers de passerelles, ou de pieds d'appel. Il s'agit de prendre élan, une succession d'élans pour s'aider à bondir et à atteindre l'autre rive. L'autre rive est prise dans le brouillard. L'élan est en nous, mais il est sous-jacent. Il faut dégager les deux. L'élan et la rive, d'un même mouvement. Voilà à quoi servent les passerelles, à traverser. Le poète entend l'appel, mais il mesure l'abîme. Comment répondre ? Quelle est la visée de l'élan ? celle-ci demeure inconnue, insaisissable. Je cite un extrait de son livre « Aller vers ». Ces livres sont parus chez Guepin. Les livres « L'unique réponse, aller vers » n'est pas là. Ce sont ses derniers livres parus chez Gallimard. Et bien d'autres livres avant aussi. Donc je cite un extrait d'un poème d'Aller vers. « Où t'es-tu caché, objet de ma faim, de ma soif, de toutes mes courses, de tous mes souffles, dans quelle sorte d'esquive ou d'exorbitant silence ?» Là, je reprends la parole. « Un abandon de tout l'être est nécessaire. Il s'agit de se livrer au mystère, dans la confiance en l'inconnu, dont on sait qu'il nous abreuve mystérieusement. » Je recite Jean-Marc Sourdion. « Naître, pour toi, c'était se donner à ce qui vient, à ce qui se noie et qui revient, à ce qui s'énonce à l'insu de soi, la vie plus vaste que le destin. » Se lancer, certes oui, je reparle. Se lancer, certes oui, mais comme l'on plonge dans le fleuve et se laisse emporter par les eaux, se délestant peu à peu de soi pour rejoindre une réalité plus profonde. Je repasse la parole à Jean-Marc. Fleuve, fais que dans ton eau, je sois chaque jour plus réel, de moins en moins moi-même, de plus en plus semblable au courant qui m'entraîne. Il y a eu dans la revue Terre à Ciel, que vous connaissez sans doute, un très bel entretien il y a quelque temps entre Jean-Marc Sourdion et Isabelle Lévesque. Et Jean-Marc Sourdion disait ceci. « La poésie, comme langue de l'espérance, est la seule réponse sérieuse à l'intérieur du désespoir. On ne cherche plus à atteindre l'autre rive dans le bond que nous faisions vers elle, mais on se tourne vers l'estuaire. » Ce qui n'a encore ni figure, ni nom pour se dire, et qui est plus vaste que nous. On se fonde sur son amour, son imagination et son intuition pour se guider en se laissant porter dans notre appel par l'élan qui nous vient des commencements, de la naissance ou de ce qui la précède, et qui a dans la mélodie du poème sa plus fidèle expression. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps?
Un petit peu de temps, oui.
Oui, on prend un petit peu. Chic. Merci. Alors, le dernier texte de ce livre est un chapitre que j'ai intitulé « Hors les murs, par-delà les mots ». Et dans ce chapitre, j'essaye de répondre à cette question. Pourquoi la poésie? Comment je me situe, moi, par rapport à la poésie? Que représente la poésie pour moi? On ne sait pas pourquoi l'on aime. Une lumière nous atteint, nous donnons notre accord. Nous ne pouvons déchiffrer, mais nous livrons passage. Nous ne sommes pas aveugles, nous voyons plus loin. Que l'on me pardonne d'avoir cité ici l'un de mes propres poèmes, mais il me semble que ce qu'il exprime pourrait parfaitement s'appliquer à la poésie. En effet, qu'est-ce que la poésie, sinon cette sorte de lumière venue on ne sait d'où et qui échappe à toute tentative de définition? La poésie, je ne sais pas ce que c'est, ou plutôt c'est ce que je ne sais pas. Cette lumière vient de plus loin que nous et conduit au-delà de nous. Nous ne la refusons pas. Nous permettons que cette lumière entre en nous, elle nous appelle. Et nous commençons à marcher avec elle. Elle explore les espaces inconnus. Je suis seulement l'ouvreur de fenêtres. Le vent entrera après tout seul, écrivait, qui le sait, Jean Giono. Aucun mot ne dépeint mieux comment je me situe face à l'acte poétique. La poésie est comme le vent, elle se joue de toute définition. Elle n'accepte pas d'être enfermée, elle est absolument libre. Elle souffle où elle veut et quand elle veut. Nous devons juste ouvrir les fenêtres de notre maison si nous voulons la laisser entrer. C'est le feu qui décide, écrit Christian Bobin, le feu de l'esprit, et il passe où il veut. Ouvrir les fenêtres consiste simplement à aiguiser le regard, à tendre l'oreille, bref, à cultiver l'attention. L'attention dont on parlait à propos de Jean-Pierre Lemaire. Voir et entendre ce que nous disent les paysages, les événements, les rencontres, par-delà les formes qu'ils revêtent provisoirement. Car tout paysage, tout événement, toute rencontre sur notre route ne sont qu'éphémères, soumis au changement. Pourtant, ils portent en eux quelque chose qui les relie à l'éternel, et même les noue entre eux sous le signe de ce qui demeure, inaltérable. Inaltérable, invisible et indicible tout autant. C'est pourquoi il est impossible de mettre des mots sur la poésie. Les mots sont les outils de la poésie, mais ils ne font poésie que s'ils donnent à percevoir ce qui les dépasse infiniment. Je vais terminer par ceci. Dans nos ténèbres, une phrase que vous connaissez bien sûr, hein, René Char, dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Une autre des fulgurances de René Char. Le poète apporte non pas des preuves, mais des traces. Seules les traces font rêver. Les traces sont les empreintes laissées sur le sable par l'oiseau de mer qui venait de s'y poser, à présent reparti vers le large. Il portait avec lui la connaissance de l'espace infini, et nous, penchés sur ces traces, rêvons à cet ailleurs qui nous échappe et pourtant nous fait vivre. Nous rêvons que cet ailleurs soit un espace de beauté qui réunisse en son sein tous les aspects de l'univers. Ceux qui nous apparaissent beaux comme ceux qui nous semblent laids, en une nouvelle harmonie. Nous savons que nous procédons de cette harmonie, même si nous ne la connaissons pas et qu'elle demeure insondable mystère. Elle nous constitue, elle est notre vérité profonde. Ici, sur cette plage où nous atteignent d'infimes traces, nous sommes en exil. Notre désir le plus cher est de rentrer à la maison. J'écris pour l'espérance, a dit Henri Beauchaud. Et Christian Bobin, j'écris pour qu'on puisse à nouveau ressentir le frôlement de l'invisible dans le visible. Récemment, nous marchions avec une amie, ma femme et moi, sur un sentier par une chaude soirée d'été. Des lucioles dansaient autour de nous, répondant aux étoiles scintillant dans le ciel. Je pensais à Philippe Jacotet, les poèmes, tels de petites lanternes où brûle encore le reflet d'une autre lumière. Merci.
Merci bien Thierry Pierre pour ce vaste panorama et cette conclusion vers une autre lumière qui va peut-être engager peut-être quelques interrogations, quelques questions. Voilà. On va commencer parce que c'est toujours la première question généralement qui pose problème. Tu as commencé ton propos par des guillemets sur le mot découverte.
Oui.
J'imagine un peu la réponse, mais je la voudrais claire.
Oh, bah parce que je pense bien que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert les Amériques.
Ah bon?
Ah ben non. Puisqu'il y avait des populations, il y avait d'immenses populations bien avant. Et puis que les Vikings aussi ont poussé une pointe jusque-là. Et Jacques Cartier, oui. Mais enfin, Jacques Cartier, c'est encore après. C'est encore après. Pardon ? Jacques Cartier, non ?
Ah non,
c'est après. C'est bien comme réponse. Tu es satisfait ?
Un peu court, jeune homme.
Oui. Non, mais voilà, les Amériques étaient peuplées bien avant l'arrivée des trois caravelles.
Bien sûr. Mais il importe quand même de célébrer cet anniversaire.
Eh bien, cet anniversaire a été célébré en 92 et moi je m'interrogeais à ce moment-là parce que on disait « Ah, c'est formidable, nous on a découvert les Amériques et ça a révolutionné le monde et nous sommes les meilleurs. » Enfin, bon, bien sûr que ça a révolutionné le monde. Ça, je le conteste oui, pas voilà, du tout. Ouais. Mais c'est au niveau des valeurs que je m'interrogeais quand même. Mmh, hein, puisque ce qui a suivi sont des massacres épouvantables.
Mmh. Alors, précisément, il me semble que tout ton propos vis-à-vis de l'écologie, d'une façon générale, me pose la question sur le côté militant. Comment et pourquoi un poète peut-il être militant ? Existe-t-il des poètes militants ? Et est-ce que les poèmes militants sont toujours bons ? J'ai des exemples en tête où ils ne sont pas forcément très bons.
Mais je suis d'accord. Oui, c'est sûr. On pourrait croire même que ça s'oppose, mais je pense.
Alors oui,
que
voilà.
Oui, non, mais si, je pense que si on écrit avec le but de se révolter, de d'écrire cette révolte et d'être militant, comme tu dis, voilà, oui. On rate quelque chose. À ce moment-là, c'est pas de la poésie vraiment qu'il faut écrire, je pense. Si la révolte vient de plus profond, de plus loin que soi, et est dictée par une sensibilité profonde qui a été profondément blessée, et que ça sort tout seul, qu'on peut pas faire autrement que crier cette révolte, à ce moment-là, on touche la poésie. Oui. Il faut voir ce qui est l'élan, comme dirait Jean-Marc Sourdion, l'élan qui préside à cette poésie-là. Il y a effectivement énormément de poésie militante qui ne donne pas de très bons poèmes, je suis d'accord. Mais il y a aussi des poèmes qui sont de véritables cris, qu'il faut entendre, et qui sont réellement qui sont poétiques, quoi, parce qu'ils viennent du plus profond de soi. C'est quelque chose qui passe par soi, et c'est authentiquement poétique. Et je pense aussi que le poète, comme Jean Dumortier, je pense que le poète, en tant que poète, a un rôle à jouer dans la société. Par le simple fait même d'être poète et de laisser passer le souffle de la poésie. Peut-être de tirer des signaux d'alarme, mais certainement. Mais je pense que simplement dire qu'il y a autre chose que le discours ambiant, que le discours rationnel, etc. Dire qu'il y a autre chose qui peut nous faire vivre, je pense que c'est important. Et en ce sens, le poète, même s'il n'est pas militant, il ne faut pas être militant pour ça, mais il est dans son rôle à ce moment-là, à partir du moment où il écrit de la poésie. Il est tout à fait dans son rôle.
Selon toi, la poésie serait essentiellement militante, alors ?
Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Être dans son rôle... Non. Être à sa place de poète, ce n'est pas nécessairement du militantisme. Ce n'est pas du militantisme.
On peut être engagé sans être militant.
On peut être engagé sans être militant, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il faut se méfier aussi d'une certaine militance, je dirais, parce que alors on tombe dans le slogan tout le temps, on tombe dans les banderoles, Bon, c'est autre chose, je pense que le rôle du poète est un rôle plus discret, me semble-t-il, enfin, c'est comme ça que je le vois, mais sa voix peut porter très loin, très très loin.
Visionnaire.
Oui, visionnaire aussi, bien sûr.
Mais est-ce que ça empêcherait un poète de rentrer en politique ?
Et il y a eu des exemples.
Hein. Oui.
et il y a aussi des hommes politiques qui apprécient la poésie.
Absolument.
Oui, bien sûr. Donc, ça n'empêche pas. Je pense qu'on
était encartés.
Bien sûr.
Oui, mais évidemment, les exemples sont nombreux.
Oui, bien sûr. Le temps d'Arabou,
c'est une catastrophe.
Oui, non, mais les exemples sont nombreux, bien entendu. Je pense qu'il y a la situation professionnelle, je dirais, la façon, le statut social extérieur de la personne, et ça ne l'empêche pas d'avoir aussi une vie intérieure qui peut donner naissance à la poésie. Et s'il publie cette poésie, à ce moment-là, il a un second statut, on va dire, un statut de poète. Oui. Oui, Bernard.
Ben, je ne voudrais pas être par là à poser des questions, j'en ai plein ma sacoche. J'ai cité Guilvic, pas tout à fait par hasard. Et tu as cité le mot vivre en poésie en attribuant ce mot à Colette Nismazur. Je ne veux pas lui retirer, bien sûr, mais il me semblait que c'était le titre d'un livre de Guilvic.
C'est le titre d'un livre de Guilvic.
Repris par Colette Nismazur, alors.
Non, c'était une citation, elle disait vivre en poésie, ce serait, etc. etc. Mais bon. Toi aussi, tu pourrais écrire un texte qui commence par vivre en poésie. Pour moi, c'est cela. C'était pas.
Jean Breton et quelqu'un d'autre aussi avait écrit vivre en poésie.
Jean Breton. Oh, c'est possible. Ah, oui. C'est possible. Mais c'est vrai que c'est un titre de Guilvic, bien entendu. C'est un très bon livre d'ailleurs.
Et pour toi, qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que serait ou qu'est-ce que c'est que vivre en poésie?
Vivre en poésie, pour moi, c'est d'abord une attitude d'écoute. C'est d'abord l'écoute de quelque chose qui n'est pas forcément très perceptible immédiatement. Écoute d'une voix plus profonde que le brouhaha qu'on entend habituellement au quotidien. Je pense que pour cette écoute-là, il faut pouvoir faire silence, silence à l'intérieur de soi, silence du cœur, pour être en écoute véritable, quoi. Et on peut très bien vivre en poésie sans écrire de poèmes aussi, ça je voudrais dire. Je connais énormément de gens qui sont d'authentiques poètes et qui n'ont jamais écrit un seul vers. Parce qu'ils ont, cette écoute et ils ont un regard, ils ont quelque chose qui est branché sur un souffle vraiment intérieur, vraiment profond. Qui vient de plus loin que nous, il va au-delà de nous, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ça pour moi la poésie.
Excusez-moi, je corrige, c'est pas vivre en poésie, c'est Poésie pour vivre. C'est un bouquin, un essai qui a été fait par Jean Breton et Serge Brindeau.
Ah voilà,
Poésie pour vivre.
Ok.
Il a de quel âge? Pour savoir par rapport 64. À vivre en poésie. 64. Ah. Je ne sais pas exactement la date de vivre en poésie biblique, mais je pense que c'est un peu après. Oui, Alain.
Oui.
Un poète auquel je reviens souvent, peut-être à la fois engagé et militant, qui a été fort cher, c'est Pasolini.
Ah oui,
mais aussi, son frère en poésie pour moi, Jean Sénac, l'un et l'autre assassinés pour des raisons troubles, et en grande partie pour leur engagement. Pasolini, vous le savez, a été exclu du Parti communiste pour son homosexualité. Jean Sénac écrivait des libelles très virulents contre Boumédienne, l'un et l'autre homosexuel et à la marge, et militant.
Oui, bien sûr. Et bien entendu, il y a nous savons tous qu'il existe des régimes dans différents États qui cherchent à réduire les poètes au silence. Et c'est bien la preuve aussi que ces poètes représentent pour ces régimes-là un certain danger. Et donc ces poètes sont parfois, je dirais, militants à leur corps défendant. Enfin,
Catherine peut peut-être évoquer le bouquin justement qui a été publié l'an dernier, il y a deux ans, je ne sais plus, autour d'une phrase d'une iranienne, non, je ne sais plus, comme quoi on les empêchait d'écrire.
Ah oui, tu parles de...
C'était pas une iranienne, c'était une... Elle est afghane. Afghane,
voilà.
Ah, oui. Alors,
je
cherchais
à
répondre à la question, là, mais je
ne... Ah, ouais. Alors, tu parles souvent, donc, de descendre à l'intérieur de soi, de quelque chose de l'au-delà. Et bien sûr, le mot que tu ne prononces pas, c'est la spiritualité.
Oui.
Il me semble qu'il y a de la spiritualité là, dans l'au-delà.
Oui. Oui, c'est la vie de l'esprit. L'esprit qui nous dépasse, qui relève d'un espace plus vaste que nous. Et pour moi... la spiritualité c'est l'axe de ma vie en fait. Mais c'est difficile de parler de... Bon, la spiritualité, ça peut être mal compris, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire « Ah, il n'y a qu'une seule spiritualité qui est valable. » Il y a des tas de spiritualités, mais toutes ces spiritualités se rejoignent en une seule, qui est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit prend différentes formes.
Mais je dirais le mystère.
Le mystère, bien sûr. Mm-hmm. Oui, 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 oui.
Le mystère
de... L'esprit... L'esprit est fait de mystère. Oui, mais bien sûr, c'est sous-jacent à la poésie que j'aime et à la poésie que j'essaye d'écrire aussi. À mon regard poétique, le regard que je tente d'avoir dans la vie, par lequel je tente d'aller dans la vie, est un regard qui se nourrit de l'espace spirituel. Mais je ne veux pas mettre de nom dessus.
J'ai bien compris. Ah. J'ai entendu ton silence.
Parce que je pensais que tu allais abandonner.
Non, je respecte.
Pour répondre juste à la question lancée par Colette à l'instant, il s'agit de Somaya Ramish, qui était l'auteur d'un livre collectif intitulé Nulle prison n'enfermera ton poème. C'est un livre collectif qui avait suscité, à la suite de l'interdiction qui avait été faite dans son pays, après de nombreux autres interdits, interdiction d'écrire de la poésie.
Ah, oui.
C'était quelque chose que l'on pouvait interdire.
Ah, oui,
voilà, donc c'était... Oui, c'est ça. Voilà,
d'accord.
C'est ça. Mmh. Oui.
D'accord.
Il n'a pas entendu...
Est-ce que tu peux répéter un peu plus fort et le nom et le titre ?
Somaya Ramish, Nulle prison n'enfermera ton poème.
Anthologie qui a été lancée, donc, initiée par Somaya Ramish en Afghanistan parce qu'il y avait interdiction d'écrire des poèmes.
Parmi d'autres.
Donc la poésie est dangereuse.
Oui. Voilà, oui c'est ça. La langue, donc Myriam Ouattet Delmotte dans sa préface à l'ouvrage écrit ceci, c'est ça que je cherchais là tout de suite. La langue structure la pensée et par corollaire la vision du monde. Tous les pouvoirs autoritaires le savent qui s'emploient à la cadenasser. Les poètes sont des briseurs de cadenas. Bien sûr. Mais pas que la poésie. Enfin, il y a des régimes autoritaires qui cherchent à interdire la poésie, mais toute forme d'art.
Toute forme d'art, d'une façon générale.
Bien entendu.
Ou à l'annexer.
Pardon ?
Ou à l'annexer.
Ou à l'annexer, bien entendu. Oui.
Merci.
Merci. Oui, oui, on a connu des époques comme ça. Il y a une exposition en ce moment à Paris sur Gerhard Richter.
Oui, le peintre, Richter, oui, oui.
Richter, le peintre allemand qui a dû commencer sa carrière de peintre sous le nazisme et puis sous le soviétisme et puis enfin bon et il a dû à ces périodes-là peindre selon les canons imposés par les régimes en place. Pardon ? Oui, oui, voilà.
Mais c'est pas le seul. Hein, alors j'avais deux petites questions annexes comme ça. Je crois que le poème de Sandrard, c'est prose.
Oui, prose du Transsibérien et de la petite Jeanne.
Et non pas poésie.
Oui, ah oui, mais ça. Alors là, il y a un passage. Attends, il faut que je retrouve. Attends une seconde. J'en parle dans mon livre, mais. Prose. Voilà. Pourquoi avoir donné à son poème le titre de prose ? En 1910, Freddy Saussure, qui est le vrai nom de Blaise Sandrard, avait découvert Remi de Gourmont, une rencontre décisive qui influencera toute son œuvre. Rémy de Gourmont est notamment l'auteur d'un livre intitulé « Le latin mystique, les poètes de l'antiphonaire et la symbolique du Moyen-Âge ». J'ai pas lu. Le futur Sandrart avait lu dans cet ouvrage que les moines bénédictins de la prestigieuse abbaye suisse de Saint-Gall, qui fut à partir du IXe siècle un important foyer culturel, avaient abandonné la métrique traditionnelle qui présidait à leurs chants et leurs hymnes liturgiques et inventé une nouvelle prosodie appelée « séquence irrégulière » ou « prose » fondée sur le rythme et les battements du cœur. L'un de ces moines novateurs, Notker dit l'allemand, ou le Bègue, considérait même que les bruits d'eau et les rythmes d'engins de bois ou de fer étaient, je cite, « parfaitement dignes de faire bien s'accoupler et rimer les mots ». Lisant cela dans le passionnant ouvrage de Rémy de Gourmont, le jeune Saussaire, donc Blaise, Sandrart, avait compris que la poésie est avant tout une expression de la merveilleuse liberté du monde réel, une liberté foisonnante, inépuisable et sans cesse réinventée. Il semble bien que là se trouve l'origine de l'utilisation par Sandrart du mot « prose » comme titre de son poème. Ses 445 vers se déroulant d'ailleurs, comme nous le verrons, si vous lisez le livre, sur le modèle de séquences rythmiques.
Merci beaucoup, monsieur. Ça fait des années que je m'interrogeais sur l'origine de prose du transsibérien.
Voilà, j'avais résolu ce problème. Donc il faut lire donc le latin mystique de Rémy de Gourmont.
Oui.
Et les moines de Saint-Gall.
Voilà.
Bon, ben voilà des ouvertures magnifiques aussi. Oui.
Et le livre de.
Et le livre de Thierry Pierre, bien sûr. Alors, simplement, je vous. Toute petite allusion, il me semble que dans ce que tu as dit de Sandrart, il y avait beaucoup d'Apollinaire.
Ah, bah, c'est possible. Oui,
j'aime beaucoup Apollinaire.
Il se connaissait bien. Hein.
Oui.
Et d'ailleurs, je vais reprendre encore.
Parce que ça s'est remis quand même, où ça débute. À la fin, tu es là de ce monde ancien qui reprend ce que tu disais.
Oui, tout à fait. Alors, je cherche, parce qu'il y avait une citation.
À la fin, tu es là de ce monde ancien.
Oui.
C'est le début de.
Alors voici ce qu'écrit Apollinaire au sujet de cette expérience. Donc l'expérience dont je parlais ici dans le livre, c'est le livre simultané, hein, parce que oui. La prose du Transsibérien, vous le savez sans doute, avait été rédigée pour la poésie par Blaise Sandrart et illustrée, enfin accompagnée même plutôt. Par les peintures de Sonia Delaunay. Et c'était un long rouleau comme ça, et ça se lisait ensemble. Hein. Enfin, on voyait les couleurs de Sonia Delaunay, et puis on lisait les poèmes, et on était imprégnés par les couleurs. Donc c'était le premier livre, ils appelaient ça le livre simultané. Voici ce qu'écrit Apollinaire au sujet de cette expérience. Blaise Sandrart et Madame Delaunay on fait une première tentative de simultanéité écrite où des contrastes de couleurs habituaient l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les éléments plastiques et imprimés d'une affiche. Voilà, oui, et effectivement... Sandrart a fait une petite révolution typographique hein, comme ça et qui a inspiré notamment Apollinaire avec ses fameux calligrammes et puis plus tard les dadaïstes. Et,
absolument. Hein,
pour la fusion des arts, poésie, peinture et musique, allez voir l'exposition Kandinsky
à
la Philharmonie.
Oui, c'est Kandinsky et la musique. Très bien, écoute, merci beaucoup de cette grande ouverture, de cette poésie qui nous ouvre des fenêtres. Et voilà, le livre est à disposition, je crois qu'il y en a.
Oui, il y a quelques exemplaires. Et j'ai même apporté aussi deux exemplaires de Approche de l'eau, qui était le recueil qui avait obtenu le prix Aliénor il y a sept ans déjà, préfacé par Jean-Pierre Lemaire.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et donc les livres sont à votre disposition, tant le cercle, tant le...